4. Hodges téléphone à Holly du parking couvert jouxtant le centre médical, et quand il arrive au Turner Building, dans le bas de Marlborough Street, où est situé leur bureau, elle l'attend dehors, sa sacoche plantée entre ses confortables chaussures plates. Holly Gibney, bientôt la cinquantaine, plutôt grande et mince, cheveux bruns d'ordinaire tirés en un chignon serré à l'arrière de la tête, emmitouflée ce matin dans une parka North Face volumineuse, capuche relevée encadrant son petit visage. Visage quelconque au premier regard, pense Hodges, jusqu'à ce que vous voyiez ses yeux, beaux et pleins d'intelligence. Mais vous risquez de ne pas les voir pendant longtemps, car Holly Gibney évite le contact visuel. Hodges glisse sa Prius le long du trottoir et Holly saute en voiture, retirant ses gants et approchant ses mains des bouches d'air chaud côté passager.
« T'en as mis du temps ?»«
15 minutes, j'étais à l'autre bout de la ville. Je me suis tapé tous les feux rouges. »«
18 minutes,
corrige-t-elle alors que Hodges redémarre. « Parce que tu as roulé trop vite, ce qui est contre-productif. Si tu gardes une vitesse d'exactement 30 km/h, tu peux avoir pratiquement tous les feux verts. Ils sont minutés. Je te l'ai déjà dit. Maintenant, raconte-moi ton rendez-vous chez le médecin. Tu as eu tes examens avec mention ?»
Hodges réfléchit aux possibilités qui s'offrent à lui. Seulement deux, en réalité. Dire la vérité ou improviser. C'était Holly qui l'avait tanné pour qu'il aille consulter à cause de ses problèmes d'estomac. Une simple gêne au début, de la douleur maintenant. Holly a beau avoir des troubles de la personnalité, elle sait très bien arriver à ses fins. Comme un chien avec un os, se dit parfois Hodges.
Les résultats ne sont pas encore arrivés.
Ce qui n'est pas tout à fait un mensonge, se dit-il, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés jusqu'à moi.
Holly le regarde d'un air sceptique, alors qu'il débouche sur le périphérique. Hodges déteste quand elle le regarde comme ça.
Je m'en occupe, dit-il. Fais-moi confiance.
Je te fais confiance, dit-elle. Je te fais confiance, Bill.
Ce qui le fait se sentir encore plus morveux.
Elle se penche en avant, ouvre sa sacoche et en sort son iPad.
J'ai fait quelques recherches en t'attendant. Tu veux que je te dise?
Vas-y, balance.
Martine Stover avait 50 ans quand Brady l'a estropiée, ce qui fait qu'elle a 56 ans aujourd'hui. Elle pourrait en avoir 57, mais comme on est seulement en janvier, je me dis que c'est très peu probable, pas toi?
Il y a peu de chance, en effet.
Au moment du City Center, elle vivait avec sa mère dans Sycamore Street, pas loin de Brady Hartsfield et sa mère, ce qui est plutôt ironique quand on y pense.
Pas très loin non plus de Tom Saubers et sa famille, songe Hodges.
Lui et Holly avaient été mêlés à une affaire impliquant les Saubers il n'y avait pas si longtemps. Une affaire également en lien avec ce que le journal local s'était mis à appeler le massacre du City Center. Il existait tout un tas de liens, quand on y pensait. Le plus étrange étant peut-être que la voiture utilisée par Hartsfield comme arme du crime appartenait à la cousine de Holly.
Comment une vieille dame et sa fille gravement handicapée ont-elles pu emménager à Richdale?
Grâce à l'argent de l'assurance. Martine Stover n'avait pas seulement une ou deux grosses polices d'assurance, mais trois. C'était une fanade de l'assurance.
Hodges trouve qu'il n'y a que Holly pour dire ça d'un ton approbateur.
Il y a eu plusieurs articles sur elle ensuite, parce que c'était la plus grièvement blessée de tous les survivants. Elle disait qu'elle savait que si elle ne décrochait pas de boulot au City Center, elle devrait commencer à encaisser ses assurances une à une. Faut dire que c'était une femme célibataire, avec à sa charge une mère veuve et sans emploi.
Qui a fini par prendre la relève.
Holly hoche la tête.
Oui, très étrange, très triste. Mais au moins, elles avaient un filet de sécurité financier. C'est le but d'une assurance.
Elles se sont même élevées dans le monde.
Oui, dit Hodges. Mais maintenant, elles l'ont quitté.
À ça, Holly ne trouve rien à répondre. Ils arrivent au niveau de la sortie Richdale. Hodges l'apprend.
5. Pete Huntley a pris du poids. Son ventre déborde de son pantalon.
mais Isabelle Janes est plus époustouflante que jamais dans son jean moulant délavé et son blazer bleu. Ses yeux gris ténébreux vont de Hodges à Holly, puis reviennent sur Hodges. « Tu as maigri ?» dit-elle. Ce pourrait être un compliment, aussi bien qu'une accusation. « Il a des problèmes d'estomac, » dit Holly. « Il est allé faire des examens et les résultats devaient arriver aujourd'hui, mais... »
« Parlons d'autre chose, Hall, » la coupe Hodges. « On n'est pas en consultation, là. »«
Vous ressemblez de plus en plus à un vieux couple, vous deux, » dit Izzy. Holly répond d'un ton pragmatique. « La vie de couple gâcherait notre entente professionnelle. » Pete rigole et Holly lui jette un regard perplexe alors qu'ils franchissent le seuil de la maison. C'est une magnifique demeure de style Cape Cod, et bien qu'elle soit située au sommet d'une colline et que ce soit l'hiver, il fait bien chaud à l'intérieur. Dans l'entrée, tous les quatre enfilent une fine paire de gants en caoutchouc et des surchaussures. « C'est fou comme tout revient, » pense Hodges, « comme si j'étais jamais parti. » Dans le salon, il y a un tableau représentant deux petits enfants aux yeux immenses, accrochés à un mur, et un grand écran de télé sur un autre. Il y a un fauteuil de repos installé en face de la télé, avec une table basse à côté. Sur la table basse, un soigneux éventail de magazines People style OK et de torchons à scandale style Inside View. Au milieu de la pièce, Hodges remarque deux profondes rainures dans le tapis. C'est là qu'elle s'installait le soir pour regarder la télé, se dit-il. Ou peut-être toute la journée. Maman dans son fauteuil de repos, Martine dans son fauteuil roulant. Qui devait peser une tonne, en juger par ses empreintes. « Comment s'appelait la mère ?» demande Hodges. « Jenny Sellerton. Marie, James, mort il y a 20 ans, selon... » De la vieille école comme Hodges, Pete utilise un carnet au lieu d'un iPad. Il le consulte. « Selon Yvonne Carstairs. C'est elle et Georgina Ross, l'autre aide à domicile, qui ont trouvé les corps quand elles sont arrivées ce matin peu avant 6 heures. Elles étaient payées plus si elles arrivaient plus tôt. Ross n'a pas été d'une grande aide. Elle ne faisait que bredouiller, dit Izzy. Mais Carstairs a été bien. Elle a gardé la tête froide, appelé la police aussitôt. On était sur les lieux à 6h40.
Quel âge avait maman ? Demande Hodges.
On ne sait pas encore exactement, répond Pete. Mais plus toute jeune.
Elle avait 79 ans, dit Holly. L'un des articles que j'ai lu en attendant que Bill vienne me chercher disait qu'elle avait 73 ans au moment du massacre du City Center.
Ouais. « Plutôt jeune pour s'occuper d'une fille tétraplégique, » commente Hodges.
« Elle était en forme pour son âge, » dit Isabelle. « Du moins d'après Carstairs. Une femme de tête. Et elle avait toute l'aide dont elle avait besoin. Elle pouvait se le permettre grâce... »«
À l'argent de l'assurance, » finit Hodges. « Holly m'a mis au courant sur la route. »
Izzy jette un œil à Holly. Holly ne remarque rien. Elle examine la pièce, en fait l'inventaire, renifle l'air, passe une main sur le dossier du fauteuil de maman. Holly souffre de troubles émotionnels. Elle prend irrationnellement tout au pied de la lettre. Mais elle a aussi les sens en alerte comme personne. Pete dit.
Il y avait 2 aides à domicile le matin, 2 l'après-midi et 2 le soir, 7 jours sur 7. Une compagnie privée qui s'appelle...
Retour à ses notes.
Home Helpers. Elle se chargeait du lourd. Il y a aussi une femme de ménage, Nancy Alderson, mais apparemment elle est en congé. Le calendrier de la cuisine dit Nancy à Chagrin Falls, avec aujourd'hui, mardi et mercredi barré.
2 hommes, portant eux aussi des gants et des surchaussures, arrivent du fond du couloir. La partie de la maison qu'occupait la défunte Martin Stover, suppose Hodges. Ils transportent des caisses de collecte de preuves.
« C'est bon pour la salle de bain et la chambre, » dit l'un d'eux. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« À peu près ce à quoi on pouvait s'attendre, » répond l'autre. « On a retiré pas mal de cheveux blancs de la baignoire. »«
Pas étonnant, étant donné que c'est là que la vieille dame l'a fait. »«
Il y avait aussi des traces d'excréments dans la baignoire, mais peu. »«
Ce à quoi on s'attendait aussi. »
En voyant le regard interrogateur de Hodges, le technicien ajoute.
« Elle portait une couche. Elle s'était préparée. »
« Burke ?» lâche Holly. Le premier technicien dit.
« Il y a une chaise de douche, mais elle est dans un coin avec une pile de serviettes propres dessus. On dirait qu'elle n'a jamais servi.
On devait lui faire sa toilette au gant, dit Holly.
Elle a toujours l'air dégoûtée, soit à l'idée de la couche, soit par les traces de merde dans la baignoire. Mais ses yeux continuent de scanner la pièce. Il se peut qu'elle pose une question ou deux, ou qu'elle lâche un commentaire, mais la plupart du temps, elle restera silencieuse, car les gens l'intimident, surtout en tête à tête. Mais Hodges la connaît bien, du moins autant qu'on le peut, et il peut voir qu'elle est aux aguets. Elle parlera plus tard, et Hodges écoutera attentivement. L'an passé, durant l'affaire Saubers, Hodges a appris qu'écouter Holly porte ses fruits. Elle pense en dehors des clous, parfois carrément à l'opposé, et elle est dotée d'une intuition troublante. Et bien que craintive par nature, Dieu sait qu'elle a ses raisons, elle sait être courageuse. Holly est la raison pour laquelle Brady Hartsfield, alias le tueur à la Mercedes, se trouve maintenant au Kinner Memorial, à la clinique des traumatisés du cerveau de la région des Grands Lacs. Elle lui a défoncé le crâne avec une chaussette bourrée de billes de roulement, avant que Hartsfield ait pu déclencher une catastrophe bien plus vaste que celle du City Center. Il vit maintenant dans une quatrième dimension que le neuro en chef de la clinique appelle « état végétatif persistant ».
« Les tétraplégiques peuvent prendre des douches », précise Holly, « mais ça leur est difficile, à cause de tout le matériel médical auquel ils sont rattachés. Donc, pour eux, c'est plutôt des toilettes aux gants.
Allons dans la cuisine, où il y a du soleil, dit Pete. Et dans la cuisine, ils vont. La première chose que remarque Hodges, c'est l'égouttoir, où une unique assiette, ayant contenu le dernier repas de Madame Ellerton, a été mise à sécher. Les plans de travail sont étincelants, et on pourrait manger sur le sol tellement il est propre. Hodges a dans l'idée que son lit à l'étage est soigneusement fait. Elle a peut-être même aspiré les moquettes. Et puis, il y a la couche. Elle a pris soin de tout ce qu'elle a pu. Ayant lui-même à une époque sérieusement envisagé le suicide, Hodges peut comprendre.